Avant de débuter cette séance, installez-vous confortablement dans un espace isolé ou calme. J'aimerais vous conduire dans un maquis rêvé, dans l'exploration d'un espace imaginaire et de situations imaginées. Afin de focaliser votre attention, afin d'être plus réceptif au voyage qui vient, je vous suggère de fermer vos yeux. Nous allons partir ensemble. Nous allons traverser un récit composé de nombreux rêves. Nous allons suivre la trame d'une histoire, occuper cette histoire comme une échappée. Ce moment d'exploration dans l'inconscient, où le temps semble passer différemment, nous allons le traverser ensemble. C'est un « nous » qui va s'exprimer. Ma voix va nous conduire vers cet imaginaire partagé, au travers d'une collecte de rêves réunis en un seul récit. Cette exploration sonore relie donc nos sommeils vers une nuit commune. Ma voix va nous accompagner. Elle deviendra image, souvenir, sensation, situation, paysage. Dans cette traversée, continuez à vous laisser porter. Comme un enfant qui écoute une histoire, quand on écoute la radio avant de se coucher le soir. Simplement se laisser porter. Il suffit de prêter une oreille doucement attentive, d'étendre votre corps doucement. Il n'y a rien à savoir, rien à faire. Peut-être aurez-vous la sensation de dormir, mais vous le sentez déjà, votre respiration s'est ralentie, plus régulière. Encore une fois, comme en sommeil. Votre corps se détend encore, léger, s'abandonne. Nous partons de plus en plus profondément, dans un état de calme, les yeux fermés. Fermez vos paupières, simplement, pour accompagner ce mouvement progressif, pour accompagner ce voyage, pour laisser ce monde imaginaire se dévoiler et le parcourir comme dans un rêve. Un monde en vous, en nous, que l'histoire commence. Ma voix nous guide, mes mots deviennent les nôtres. Elle va nous conduire dans ce monde avec ses ambiances et résonances, prendre forme et sensation. Le maquis imaginaire, le récit prend forme et se formule en nous. Nous sommes au milieu du désert. Le ciel nous paraît extrêmement bas, comme un plafond. Il y a un immense musée supra-architectural. Dehors, dès que des gens s'approchent les uns des autres, on les sépare. Il faut faire une queue. On attend ce qui va se passer. Nous entrons pour visiter le musée, une personne à la fois. L'exposition se tient dans un vieux bâtiment industriel avec un haut plafond. Pendant le vernissage, nous faisons une performance. Nous flottons, une chaise sur notre tête. En libérant notre esprit, nous arrivons à voler, mais pas très haut. À 5 mètres du sol maximum, en étant concentré. Nous ne pensons à rien. C'est paradoxal, mais ça marche. Nous contrôlons, avec son aléatoire, un vol un peu comme un bourdon. Ou comme les vaisseaux dans Star Wars. Les visiteurs partent. La gardienne du musée nous interpelle, avec insistance, nous demandant de descendre. Ils vont fermer. En effet, le public est parti. L'espace est vide. Aurions-nous passé la nuit entière là-haut? Sommes-nous déjà le lendemain du vernissage? Aucune réaction à notre performance. Rien. Comme si personne ne l'avait vu. Comme si elle n'avait pas eu lieu. De l'indifférence. C'est le jour, mais il fait nuit. L'exposition est en fait un peu un train fantôme. Nous marchons seuls et nous nous retrouvons dans des pièces qui font vraiment peur. Dans chaque salle, nous avons envie de nous enfuir. Nous suivons les sources lumineuses des sorties de secours. Mais chacune nous mène dans une nouvelle salle du musée. Nous nous trouvons dans un labyrinthe composé entièrement de marbre liquide à la recherche d'une sortie. Nous nous enfonçons plusieurs fois dans le sol pour atterrir un étage plus bas. Finalement, nous réussissons à sortir. Nous ne savons plus trop comment. C'est le jour, mais il fait nuit. Nous saluons les écrans, en noir et blanc, pour dire à la propriétaire que nous partons, qu'elle peut fermer l'endroit. Nous voulons aller au cinéma, mais ne pouvons pas, faute de laisser-passer. Nous comprenons bien que nous n'allons pas pouvoir y aller, mais nous sommes étonnés de voir qu'ils sont en train de démanteler la salle. Les sièges sont retirés, arrachés, les uns après les autres. Ce n'est pas que nous ne pourrons pas y aller cette fois seulement. Nous ne pourrons plus jamais y aller parce qu'il disparaît. Il est délité. C'est le jour, mais il fait nuit. On est un groupe, on se retrouve, et là, on se fait arrêter par la police qui nous maintient comme ça. On va tous se prendre des amendes, on n'a pas de masque. Il ne nous semble pas que la police porte de masque. Nous arrivons à faire le tour sans être vus. Ils font passer le groupe derrière une petite barrière, et dans la place, il y a déjà plein de gens arrêtés. Et en fait, ils les tuent. Ils sont tous de dos. Nous les voyons de face. Il y a un flic qui tire avec un fusil dans le dos des gens, en file indienne. Ils tirent, et ils font mine de tomber les uns sur les autres. Et en fait, quand nous regardons mieux, les gens sourient. Ils font semblant d'être morts. Ils ne sont pas morts. Et nous nous en allons. Il y a un tunnel très, très, très long. À moitié obscur, avec des ouvertures au plafond tous les 5 mètres environ, où l'on peut voir des étoiles extrêmement brillantes la nuit et un ciel extrêmement bleu le jour. On est nombreux à marcher dans ce tunnel interminable. Beaucoup de gens tombent au sol, ne pouvant plus avancer. Certains les ignorent, d'autres les soignent et les soignent encore, d'autres encore les piétinent. Les nausées abondent. La seule issue est le rêve ou la mort. On est comme dans un étau dans lequel il faut choisir entre carbonisation et noyade. Sans savoir trop comment, nous nous apercevons que nous avons été kidnappés. Une éclipse. Nous dormons dans notre propre rêve. C'est très bref. Nous nous réveillons au matin et comprenons que nous avons passé la nuit et dormi dans un lieu qui s'apparente à une usine de production. Tout est de couleur blanche. Le lit ou la case où nous avons passé la nuit, qui semble être une armoire qu'on peut refermer, le lit est blanc. Il n'y a pas de mobilier. Nous sommes dans la cuisine. Les murs sont blancs. Les électroménagers sont blancs. Tout est blanc. Nous avons à la main une louche métallique très lourde. Tout d'un coup, nous sommes pris d'un coup de folie et nous nous mettons à tout casser autour de nous. Nous sommes déchaînés. Nous essayons même de défoncer un des murs avec la louche. Dans la cuisine, un inconnu regarde une vidéo sur un ordinateur portable. Il nous invite à regarder la vidéo qui se déroule en direct live et semble enregistrée par un aéronef qui survole le quartier d'une ville inconnue, où les gens sont dans la rue. C'est un chaos social qui semble tout à fait apocalyptique. Les voitures sont brûlées, détruites. Les rues sont dévastées, jonchées de détritus. Au moment où l'on passe dessus, un homme brise une vitre et semble vouloir s'introduire dans un véhicule. Au centre-ville, il y a un mec qui est à sa fenêtre. Il regarde les gens qui sont dehors. Et en fait, de lui-même, il surveille les gens qui osent sortir. Nous ne savons pas comment, mais quand tu n'avais pas ton passe sanitaire, il te tirait une flèche de sa fenêtre. Et en fait, au bout de la flèche, c'est un LBD, les balles de la police, au bout de la flèche. Et ça nous énerve qu'un mec de lui-même fasse ce truc, et nous reprenons les flèches et nous les lançons avec un arc vers lui. Nous allons vers lui, et en fait, il a sorti une arme, et il a commencé à tirer dans la rue, et la police est venue. Nous sommes des témoins. Tout est couvert de paillettes dans un sous-sol. Nous n'avons pas le sentiment d'agir, mais d'observer. Nous pensons à prévenir les proches, à faire un audio, parce que nous ne l'avons dit à personne. Nous entrons dans une pièce, et il y a la télé qui est allumée, et il y a un... C'est ni un drone ni un avion. C'est une sorte de fusée. Un long bec, un long pic, un long mât, qui est très joli, turquoise, avec le bout jaune, et des ailes, un petit avion. Il y a ce truc comme un thermomètre qui est en avant et qui rentre dans la vitre, qui la casse et rentre dans la pièce. Là, nous comprenons que nous allons être sur écoute, être surveillés, qu'ils viennent nous poser des questions sans nous approcher. Nous savons qu'il y a la police qui vient d'arriver. On se rappelle plus trop les questions qu'ils nous posent. Après remémorisation, après être ressorti de l'usine et avoir observé la tuyauterie extérieure de l'usine, nous arrivons dans une grande salle blanche, avec une multitude de lits-cases vides. Nous pensons qu'en fait le kidnapping dont nous avons été victimes est l'anticipation de l'arrivée d'autres personnes qui doivent remplir ces lits-cases. Nous nous retrouvons dans des sanitaires en ciment. Nous nous souvenons avoir les pieds glacés. Nous avons des numéros en impression sur la peau. Des numéros en pression sur la peau. Des chiffres. Et quand nous essayons de les retrouver sur notre corps pour les montrer, nous ne les trouvons plus. Mais nous savons que nous sommes marqués. X et nous devons nous laver et prendre une douche. Nous faisons l'amour debout. L'eau est chaude. C'est agréable et nous sommes bien. Nous étions dans une espèce de piscine, mais une piscine qui ressemble plutôt à une réserve d'eau sur pilotis en béton, en hauteur. Et elle avait une forme un peu triangulaire. Et dans ce bassin, l'eau était plutôt transparente. Ce qui s'est passé, c'est que nous heurtons, enfin, touchons une dame qui se baignait là-dedans. Et nous nous sommes excusés de l'avoir touché. Nous étions très très gênés de l'avoir touché. Plus tard, nous sommes dans un jardin. Notre balcon s'est agrandi de plusieurs mètres carrés. Nous avons plein de place pour planter plein de plantes, c'est le paradis. Nous logeons dans une petite maison blanche. Nous devons y rester quelque temps. Ça fait un peu fête du village. On est dans une cour intérieure, il y a des chapiteaux blancs et le sol, c'est une espèce de goudron gris classique. Nous attendons qu'on nous donne des ordres ou des infos, et il y a une grande tablée qui est là. Nous hébergeons souvent des gens chez nous, et ils sont étonnés de voir que nous avons tout lavé chez nous, notamment des lessives, et nous leur disons que c'est pour leur proposer un environnement propre, étant donné que nous ne sommes pas vaccinés. Ils sont étonnés, les draps sentent très bon. Nous faisons beaucoup de lessive pour que ce soit propre, et nous plions les draps en faisant bien attention à ce qu'ils ne soient pas humides. Tout semble aller bien, mais un matin, en nous réveillant, nous constatons que les draps ont changé de couleur. Ils se sont brunis. Les petites fleurs imprimées du tissu rosissent nuit après nuit. Le tissu devient plus sombre et nous comprenons qu'il s'agit de notre sang qui est ainsi aspiré par les draps. Il n'y a pourtant ni blessure ni plaie sur nos corps et les draps restent frais, secs et doux. Rien n'est poisseux comme le sang peut l'être. Mais c'est bien de notre sang dont il s'agit, nous le savons. Nous pensons à aller acheter d'autres draps, mais nous nous souvenons subitement que tous les magasins sont fermés et que nous ne pourrons pas en trouver. À l'époque où les bars et les restaurants étaient fermés, nous allons boire un coup dans une espèce de brasserie à moitié parisienne, à moitié pays de l'Est, genre Prague. Nous sommes dans un bar bondé de monde. Nous nous y sentons extrêmement bien, avec des inconnus pour la plupart. Et à un moment, tout le monde boit dans les verres de tout le monde. Et à ce moment-là, le Covid est apparu. Nous nous rappelons qu'il existait. Nous sommes à une table ronde, en bois, avec notre compagnon. Et nous devons manger une assiette de vers de terre. Et nous ne trouvons pas ça anormal. Nous comprenons qu'on essaye de nous faire manger des couleuvres. Nous les avalons quand même. Nous les avons dans la bouche. Nous avons envie de les faire ressortir. Nous tirons dessus. Ce qui rentre dans notre corps ne peut pas ressortir. Du coup, nous pensons à les couper, pour en avoir moins. Mais rien qu'à l'idée de les voir saigner et de voir leur intérieur, nous préférons appeler à l'aide, parce que nous ne voyons pas comment se tirer de cette situation. Il y a un serpent, minuscule. À chaque fois que nous essayons de le tuer, il grossit et devient plus agressif. La seule manière de le tuer, c'est de le couper en deux. Nous cherchons de l'aide. Nous avons un peu envie de vomir. Et nous n'avons pas notre passe sanitaire. Le serveur veut nous faire un test PCR, mais il se trouve que c'est pas dans le nez, mais dans l'oreille qu'il veut nous le faire. Donc il a une espèce d'instrument, comme les ORL, pour inspecter l'intérieur de l'oreille. Il nous dit qu'en regardant dans notre oreille, il peut savoir quel genre de musique nous faisons. Nous nous reconcentrons sur la table. Il y a un trou béant, comme un trou noir en plein milieu. Et nous comprenons que c'est l'endroit où on cache les choses. Ça fait peur, mais en même temps c'est normal. Nous commençons le jeu. Et parce que notre compagnon a perdu au jeu, nous lui retirons ses plumes et les jetons dans le trou. C'est ça le jeu. Nous réalisons que ses plumes sont très abîmées et grises. C'est des plumes de pigeon. Nous rassemblons d'autres plumes près de lui, et nous les gardons dans notre main. Nous faisons un beau bouquet de plumes, ça forme une aile, et nous disons à notre compagnon, « Ça, je n'ai pas envie de le jeter, ça t'allait bien. » Les plumes sont noires corbeaux. La table est une table de jeu, un grand jeu, où tout est en train de s'effondrer, comme un château de cartes. Il y a des têtes qui vont tomber. Plus loin, un regroupement d'une petite centaine de personnes semble danser, ou une sorte de gymnastique en se vautrant dans la terre et dans la boue. En fond, on distingue un paysage montagneux, limpide, dans un ciel clair. Nous nous retournons vers l'inconnu et lui demandons pourquoi ces gens ne quittent pas la ville. Il ne nous répond pas. Nous disons pourtant que c'est possible de quitter la ville, même à pied, et d'aller vivre sur la montagne, au loin. Il ne nous répond pas. Nous repartons et ressortons de ce qui semble être l'usine, au lit case. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous marchions tranquillement dans la rue, et à un moment, il y a quelqu'un qui sort d'une petite porte, un peu cachée, et nous dit « Venez, venez, on a une dose de vaccin en plus. Venez, on peut vous la donner, comme si c'était quelque chose de très précieux que nous ne pouvions pas refuser. » Nous sommes sur un chemin boueux en campagne. Tout d'un coup, s'interpose au milieu du chemin une grande barrière en bois, comme un grand mur de palettes tout à fait insurmontable. Le temps presse, un danger indistinct arrive, et on sait qu'il va falloir passer coûte que coûte, sans réaliser qu'on aurait pu contourner cet obstacle par la droite ou par la gauche, sans s'inquiéter de le franchir. Il n'y a personne. Nous rêvons de ne pas nous réveiller. Après avoir fait quelques pas, nous nous rendons compte que le sol en pierre commence progressivement à se transformer en champ de blé coupé. Nous sentons sous nos chaussures les tiges dures et jaunes déstabiliser nos pas. Dans un premier temps, nous les écrasons sans nous faire trop de soucis. Mais au fur et à mesure que nous avançons, elles grandissent jusqu'à nos genoux. Nos pas sont déstabilisés. Elles rendent presque impossible l'avancée. Il faut mieux remonter. En remontant, nous retrouvons le sol d'origine, mais voyons aussi qu'il y a un poste de contrôle que nous n'avions pas remarqué au moment de descendre. Il y a une barrière de sécurité en fer avec une moto de la police. Nous n'aurions pas dû arriver jusque-là. Nous glissons entre la barrière et la moto, en faisant semblant de rien. et en espérant que personne ne s'en aperçoive. Il y a beaucoup de flics qui nous arrêtent en groupe ou dans la rue. Il faut mettre son masque. Il faut sortir sa pièce d'identité et son attestation. Jusque-là, nous y avons échappé, mais là, coup sur coup, on se fait contrôler. Nous nous approchons de la petite gendarmette. Petite parce qu'elle est petite. Et en plus, il contrôle les sacs. Donc nous, notre attestation est au crayon de papier. Ça passe, mais du coup, quand elle ouvre notre sac, elle nous regarde d'un air de dire, amusé, elle rigole, et nous disons, ben oui, c'est une poubelle. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de papier dans tous les sens, gros bordel. Il y a une jeune, nous ne savons pas qui c'est, qui nous demande si elle peut enregistrer notre contrôle. La flic, elle dit, ce sera pourquoi ensuite. Mais elle ne répond pas. Elle enregistre et puis, avec notre micro. Et nous lui proposons qu'elle enregistre tous les contrôles, mais après, ça l'harcène. Et elle ne le fait pas. Descente de la rue. Il n'y a personne. Notre attention est saisie par la branche d'une figue qui est née entre les briques du petit mur qui entoure une partie de la place. Il s'agit d'une seule branche, bien longue et épaisse. Elle a peu de feuilles, mais une stabilité et une résilience qui décidément nous surprennent. On se dit que là, on serait en sécurité. On voit une drôle de façade, recouverte de velours doré et jaune, très ancien, jaune moutarde. Il y a des ouvertures. Il y a un lion qui est dans une petite niche. Dessous, il y a des travaux, et à nouveau, on se fait arrêter. C'est des gros travaux. Il y a des passerelles partout. Il n'y a presque plus de sol. Il n'y a personne. Nous sortons de cet espace, sur une place très sombre, avec plein de gens qui ont l'air d'assister à une distribution alimentaire. Les gens ont l'air fatigués, les traits très creusés, une ambiance très sombre. Nous croisons un ami, qui avait l'air de bien s'en sortir, qui nous propose des trucs marché noir, marché gris, tombé du camion. Non, pour nous c'est bon, nous pouvons circuler librement, peut-être parce que nous travaillons. C'est la nuit, et nous sommes en ville, et il y a des escadrons de flics un peu partout, et le jeu c'est de les éviter. Et la dernière fois, c'était des flics avec toutes sortes d'armures, on aurait dit des vulcanologues, ou qu'ils portaient des scaphandres. Il y avait des espèces d'écrans de campagne d'affichage, des trucs très lumineux. Quelqu'un derrière un pupitre qui brandit des ribambelles de cartes, comme des laissez-passer ou des trucs comme ça, en disant des trucs « liberté, sécurité, bla 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 ». Il y avait aussi différents magasins avec des noms d'idéologie politique. La libertarienne, par exemple, vendait des denrées de base. Là, un autre ami qui semble en attendre beaucoup de cette distribution. Nous éprouvons de la peine pour lui. Nous voulons l'amener chez nous, dans la jungle. Et là, on se retrouve dans une espèce de hall avec plein de cages d'animaux. Une invasion explosive de bêtes sauvages dans ce qui ressemble à la fois à une université et un centre commercial. Des sangliers, des cerfs, d'autres bêtes comme des ragondins. La salle où nous étions est détruite. Nous revenons quelques jours ou heures plus tard sur les lieux. Les pièces fermées renferment des animaux captifs qui ne sont partis et qui restent agressifs. Nous nous évadons d'une cité perdue. Nous devons nous cacher. Lorsque plus tard nous devons prendre le train, il y a la possibilité d'acheter une sorte de kit. C'est un kit label existence pour pouvoir rentrer dans le train. C'est aussi un label, le label existence. Pour finir, nous nous retrouvons dans une vaste jungle tropicale. Nous imaginons des rêves qui s'entremêlent avec des scènes de films, se retrouver nus dans le désert de Zarinsky Point, entourés de personnages amphibiens. Nous sortons à peine de chez nous, lorsqu'au coin de la rue, nous apercevons un poisson à l'œil globuleux. Merde, nous avions oublié notre multipass. Nous espérons que l'animal aux écailles d'argent ne va pas nous contrôler, être revenu avant le couvre-feu. nous rêvons de ne pas nous réveiller. On cherchait une place pour se garer, pour aller chez des amis, pour aller jouer de la musique. Mais d'un seul coup, d'un seul, il faut vite remonter dans la voiture. Il faut se dépêcher. D'un coup, le jour est tombé. Il s'avère qu'il est 20 heures. Il faut vite partir. On cache la voiture. On roule vite, en dissimulant la voiture derrière des murs. On se réfugie chez un ami musicien. On décide de passer la nuit chez lui, parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer chez nous. Un déchaînement des éléments. Les montagnes deviennent des volcans. Des météorites tombent, avec beaucoup de fumée. Il y a de nombreuses crues depuis que le gouvernement ne cessait de changer d'avis. Et nous avions vraiment de quoi devenir dingues. Le frelon asiatique remplaçait les drones dès 19 heures et ne nous ratait jamais. Lorsqu'un de nos pieds se prend dans un test pédestre, nous rêvons de traverser les frontières. Nous rêvons de coucher de soleil au bord de la mer. On attend l'explosion fatale qui nous emmène dans les abysses. Nous flottons avec les méduses. Elles brillent étrangement dans ces profondeurs nocturnes. Elles sont belles. Un petit garçon se trouve en haut d'une falaise. Il regarde la mer, aspiré par l'eau salée et la danse des amphibiens tout autour. Il y a du courant, et il regarde vers la gauche, là d'où vient le courant, comme s'il regardait en arrière, avec la gravité à la verticale. Nous rêvons de ne pas nous réveiller. Nous retenons notre souffle. Longtemps. Là, ça fait un moment que nous n'avons pas volé. Nous étions dans un auditoire avec la gravité à la verticale. Nous étions en soutien à l'hôpital jusqu'avant-hier. Donc nous avons principalement et malheureusement fait des rêves réalistes du quotidien à l'hôpital. Ça doit être le débordement de la fonction sur l'imagination. Nous rêvons de ne pas nous réveiller. Et pour la première fois de nos vies, comme Little Nemo, nous tombons littéralement debout.